Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Estival du local, votre quotidienne tout au long de cet été, du lundi au vendredi sur l'autre radio. Et on commence une nouvelle semaine aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 août, avec une nouvelle balade historique dans le département en compagnie de Christophe. Il nous conte aujourd'hui la riche histoire de l'actuel lycée Ambroise Paré. Bonjour Christophe.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. À quelques jours de la rentrée scolaire, profitons que les établissements soient encore vides d'élèves pendant quelques jours pour aller visiter le lycée Ambroise Paré de Laval. Le lieu ne se nomme Ambroise Paré du nom du célèbre chirurgien de la Renaissance né à Laval que depuis les années 1960 et n'est un établissement scolaire que depuis la Révolution française. Avant, c'est un couvent de religieuses. Pour comprendre, il faut remonter au XVIe siècle. À cette époque, la France et l'Europe sont troublées par des guerres de religion entre chrétiens. D'un côté, les catholiques, fidèles au pape, de l'autre, les protestants, qui contestent l'autorité du clergé et veulent réformer le christianisme. En France, les tensions se calment avec l'édit de Nantes en 1598, qui impose une tolérance religieuse dans le royaume. De fait, si le combat entre catholiques et protestants n'a plus lieu sur le champ de bataille, il va se poursuivre pour la conquête des esprits. Dès les années 1530, des congrégations catholiques ont vu le jour pour prendre en charge l'encadrement de la société et éviter que de larges pans ne se tournent vers le protestantisme. On pense aux jésuites, on pense également aux Ursulines, une congrégation fondée par une religieuse italienne en 1535 et dont la spécialité est l'instruction des jeunes filles. Les Ursulines ouvrent des établissements en France, comme à Paris, en 1608 et elles arrivent à Laval en 1615. Leur projet, acheter un grand terrain, le fermer de hauts murs, y construire un couvent entouré d'un vaste jardin, afin de garantir l'autonomie de l'établissement. Le but, accueillir des jeunes filles de bonne famille pendant quelques années, les couper du monde extérieur avant leur mariage et les instruire dans ce que l'on croit être la bonne religion en les encadrant par des religieuses dévouées à cette tâche. À Laval, le terrain est trouvé hors des remparts, à quelques dizaines de mètres de la porte Bécheresse, sur le plateau, en direction du sud-est. Les Ursulines entrent en possession de leur couvent en 1628. La ville-établissement s'organise autour d'une cour centrale, bordée par une grande chapelle, des dortoirs, un réfectoire et des salles d'études. Religieuses et pensionnaires sont plusieurs dizaines à vivre sur place. Les premières, les religieuses, sont même enterrées dans l'enceinte du couvent. Les mères supérieures, les directrices du couvent, ayant le privilège d'être inhumées dans la crypte qui se trouve sous la chapelle. Le couvent des Ursulines de Laval devient un établissement de référence qui essaime à Château-Gontier et à Vitré. Au total, en France, on compte plus de 300 couvents d'Ursulines à la fin du XVIIe siècle. À Laval, le couvent fonctionne jusqu'à la Révolution française. Les dernières religieuses sont expulsées des locaux en 1792 et les lieux sont acquis par la municipalité de Laval pour y installer le collège municipal, collège qui devient lycée sous Napoléon Ier et qui, contrairement au couvent, n'accueille que des garçons jusqu'à la mixité des effectifs dans les années 1960. Le couvent initial a été agrandi successivement, donnant naissance à de nombreuses cours et permettant d'accueillir actuellement plus de 1200 lycéens et étudiants. Le lycée a même absorbé l'ancienne résidence de l'évêque, construite sur le modèle de l'hôtel Matignon. L'édifice est désormais le centre de documentation et d'information du lycée. La chapelle des Ursulines, quant à elle, a été désacralisée et sert au quotidien de salle de conférences et d'examens. À la semaine prochaine, nous partirons sur les traces dans l'est du département d'une pionnière de l'archéologie.
À découvrir lundi prochain, c'est noté à l'agenda. Merci beaucoup Christophe. Et puis vous le savez, qui dit nouvelle semaine dit nouveau feuilleton dans l'Estival du local. On va se plonger dans la fabrication d'un aliment de base que vous avez très certainement dans vos placards, qu'on peut accommoder littéralement à toutes les sauces. J'ai nommé les pâtes bien sûr, mais pas n'importe lesquelles. Celles-ci sont produites en Mayenne à Épineux-le-Seguin sous la marque Sequoia par un couple d'agriculteurs. Jérôme Poirier revient sur l'origine de ce projet il y a 4 ans et sur le processus de la culture du blé dur dans les champs jusqu'au laboratoire de fabrication.
Bonjour, donc je suis Jérôme Poirier, installé à Épineux-le-Seguin sur une exploitation céréalière en polyculture élevage. Donc nous produisons des pâtes artisanales depuis 2018. Donc on a un atelier de bâtiments de volailles de chair en volailles de louée, 80 hectares de culture sur lesquels nous cultivons du blé tendre, du colza, du tournesol, de la lentille et aussi du blé dur pour la production des pâtes à la ferme. Donc nous, moi et ma femme, nous sommes installés en 2004. On a réfléchi à éventuellement développer un nouveau projet, un projet en relation avec les productions végétales, puisque moi je suis titulaire d'un BTS production végétale et je suis plutôt axé sur les productions végétales. Et du coup, on a voulu créer un projet en relation avec les céréales. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mûri ce projet-là en allant voir d'autres producteurs dans le sud de la France notamment, puisque c'est vrai que le blé dur est surtout cultivé dans le sud de la France, et on a essayé chez nous de le produire. Voilà, pendant un an ou deux, on a vu que c'était pas chose impossible, malgré certaines années quand il y a des fortes pluviométries du mois de juin, mais c'est pas forcément vrai tous les ans. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on fait plus de production que l'on a besoin, ce qui permet de pallier aux années moins bonnes en termes de qualité. Et donc du coup est né le projet parce qu'on a vu que c'était possible, et voilà, c'est comme ça que les choses se sont lancées. Alors on a été voir des agriculteurs qui déjà pratiquaient cette production. Ça nous a mis en confiance parce qu'en fait on a eu l'installateur qui nous a accompagnés également, et voilà, on a été entouré par des gens professionnels, et puis après de là on s'est dit ben, on y va, tout est possible. On avait notre blé dur en stock de bonne qualité qui nous a permis de démarrer assez facilement, je dirais. Alors du coup, le blé dur, il se sème déjà au mois de novembre, pas très tôt puisqu'on a un risque de gel d'épi au mois de février-mars. Voilà, c'est un blé qui est un petit peu plus précoce que le blé tendre. La récolte se fait au mois de juillet comme le blé tendre, souvent avant, par mesure de précaution, dans le sens où on veut le récolter avant des pluies qui pourraient apparaître aussi pendant la fin de cycle. Ensuite, nous, on le stocke dans nos cellules, hein, donc chez nous à la ferme, puisque le blé donc, qui sert vraiment à faire les pâtes, c'est notre blé de la ferme. Donc ça, c'est très important de le dire, puisque c'est un produit vraiment tracé du champ à l'assiette, comme on peut dire. On le ventile avec de l'air frais pendant la période hivernale pour maintenir une bonne conservation, notamment vis-à-vis des insectes qui pourraient se développer. Parce que nous, on ne pratique ni insecticide ni conservateur. Donc voilà, le principe de conservation, donc, c'est de refroidir le grain le maximum. Puis ensuite, donc, aujourd'hui, on travaille avec un meunier. Hein, donc pourquoi on a choisi d'avoir un meunier, c'est parce qu'on a une qualité de mouture qui est suffisamment bonne, enfin qui nous convient vraiment bien, et aussi par souci de travail. Voilà, on a un petit moulin à la ferme mais qui était un petit peu devenu obsolète en termes de production. Donc du coup on a un meunier dans le Loir-et-Cher qui nous fait une très bonne mouture. Donc on envoie notre blé chez lui directement, chez le meunier, et nous on a le transporteur qui nous le ramène en sac de 25 kg, donc où on stocke nos palettes en chambre froide. Pour démarrer la nouvelle activité, effectivement, au début, on a démarré avec notre petit moulin, donc avec lequel ça se passait pas trop mal. Et puis après, techniquement, et puis surtout en termes de travail, on a vite été pris par le travail, hein, effectivement. Et comme on dit, on ne peut pas être au four et au moulin, quoi. On a une chambre froide qui permet de conserver une dizaine de tonnes de farine, donc en sac de 25 kg, comme je disais tout à l'heure. Et puis après, donc tout simplement, tous les lundis matins, puisque donc le lundi matin ou le mercredi, en fonction des besoins, on fait une production de pâtes.
Et pour la suite, eh bien, soyez patients, puisqu'on en parlera demain. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain pour une nouvelle estivale du local. Les horaires ne changent pas, 7h30 et 12h15. Je vous souhaite une très belle journée.